Divergence FM, l'interview.
Alors on est dans notre rendez-vous maintenant régulier avec la Ligue des droits de l'homme, et puis on va parler d'une journée très importante, hein, qui se déroule donc dans la France entière le 18 décembre, et c'est une journée internationale des migrants, journée sans nous, si on arrête tout, s'arrête. C'est le titre qui a été décidé. Alors c'est dans toute la France, hein, c'est important, c'est une mobilisation très importante. Et puis on va parler donc de ceux qu'on ne parle pas tout le temps, ou en parlant mal en fait, hein, de ces fameux migrants, alors que je crois qu'on pourrait plutôt en parler en bien. Alors vous êtes sur Montpellier à 16h, le rassemblement, ce sera à quel endroit le rassemblement à Montpellier?
Alors en fait, je vais peut-être resituer aussi.
Je vous en prie.
Donc cette journée internationale du droit des migrants, donc 18 décembre chaque année, la Ligue des droits de l'homme fait partie d'un collectif, depuis de nombreuses années aussi, qui désormais est le collectif ici à Montpellier, donc Marche des Solidarités Montpellier.
Marche des Solidarités Montpellier.
Sachant que nous avons évolué, parce qu'avant c'était les États généraux des migrations, qui depuis plusieurs années, donc depuis 2017, était ce collectif, et organisait chaque année cette manifestation du 18 décembre, qui est célébrée ou consacrée partout en France, et en particulier à Montpellier.
Et donc maintenant, ce collectif s'organise toujours pour avoir une grande visibilité, en fait. Hein. Et la marche va être d'abord un rassemblement, mais ça fera la manifestation elle-même partira de la place de la Comédie.
Tout à fait.
C'est vers 18h, je crois, hein, la manifestation.
Voilà. Et donc à Montpellier, nous sommes une dizaine d'organisations en gros à nous réunir et à soutenir ce type d'initiative par rapport aux droits des migrants.
Des associations qui s'occupent des migrants, je m'en doute.
Alors, il y a les associations, donc évidemment, donc la Ligue des droits de l'homme, mais il y a la CIMAD, il y a RESF, il y a RUSF, il y a le MRAP, il y a ATTAC, il y a diverses.
Il y a beaucoup d'associations qui se réunissent pour faire une grande journée, en fait.
Tout à fait.
Et pour une visibilité.
Donc, il y a une coordination. Et cette année, plus particulièrement, nous avons en plus choisi que cette coordination, donc Marche des Solidarités Montpellier, fasse accord aussi avec le mouvement donc des sociaux, qui appelle aussi à un rassemblement devant la direction départementale du travail et de l'emploi à 16h.
Un petit peu avant la marche, avant, hein, voilà. À 16h. Donc, voilà. C'est à quel endroit la direction départementale du travail?
Dans le secteur Antigone.
C'est à côté d'Antigone, voilà. Donc c'est pas très loin.
C'est pas très loin.
Oui,
Après, les gens qui se rassembleront là pour protester notamment sur les questions relatives aux questions sociales et en particulier aux questions d'hébergement aussi des précaires.
Hébergement précaire et puis aussi le problème du droit du travail peut-être, non?
Droit du travail,
c'est compliqué.
Exactement.
Hein, c'est compliqué. Hein. Quand vous êtes migrant, vous arrivez, vous n'avez pas le droit de travailler, mais il faut travailler pour avoir des papiers. Je simplifie un peu.
Non, mais ce n'est pas une simplification, c'est exactement ce que... L'absurdité, elle est bien là. Et que cette année, donc on met donc deux focus, d'une part sur les questions du droit du travail, et puis d'autre part sur les questions de l'hébergement.
L'hébergement, c'est très très important, parce que si vous êtes à la rue, c'est pas facile de vivre, hein, n'est-ce pas? Et puis c'est quand même incroyable. On a toujours cette sensation qu'on nous fait des beaux discours, que ça soit les différents gouvernements successifs, des beaux discours, on nous dit qu'on est un pays fantastique, des droits de l'homme, citoyen, qui accueille, accueillant. Et puis, dans la réalité, on se confronte à des situations dramatiques.
Tout à fait. Et cette situation dramatique s'est nettement amplifiée, enfin, le côté dramatique de la situation s'est amplifié depuis la loi Darmanin de janvier 2024,
ça devient un parcours du combattant.
Comme le dit souvent le collègue de la CIMAD, Thierry Lerche, il dit on pourrit la vie des étrangers, quoi, aujourd'hui.
Tout fait pour les embêter, en fait. Voilà. Les embêter et leur mettre des bâtons dans les roues, alors qu'il est prouvé, il y a tellement d'études qui le prouvent, que cette migration, on en a besoin. Elle est source, en fait, de vitalité d'un pays comme la France. Et puis, il me semble qu'on est un pays, une terre d'immigration, non?
Oui, tout à fait.
Il me semble, hein.
Et l'aberration qu'il y a aujourd'hui en France, c'est qu'il y a, selon les chiffres, entre 600 et 700 000 étrangers sans papier aujourd'hui en France. Et c'est un chiffre assez constant depuis facilement une dizaine d'années. Et ces étrangers-là n'ont pas le droit de travailler officiellement.
Alors avant, on les faisait venir pour qu'ils travaillent. Hein,
voilà. Je me rappelle. Et là, ils n'ont officiellement pas le droit de travailler. En attente de titre de séjour, souvent c'est des gens qui sont en renouvellement de titre de séjour, qui ont du mal à les avoir, qui
très
sont
compliqué.
Des demandes d'asile rejetées ou autres. Donc c'est des gens qui sont
des enfants souvent, les enfants pour les scolariser, c'est tout ça, c'est un parcours du combattant comme on disait. Et puis à la préfecture, peut-être que des fois c'est compliqué aussi pour eux pour obtenir des rendez-vous, ne serait-ce que ça.
C'est aujourd'hui un parcours du combattant pour obtenir des rendez-vous en préfecture, pour obtenir l'ensemble des droits qu'aujourd'hui...
les enfants scolarisés, enfin les choses qui normalement sont dans notre loi, je ne rêve pas.
Et si on les autorisait à travailler, ils seraient nettement moins précaires, ils seraient nettement moins dans les besoins et dans les assistances sociales, on va dire, qu'il faut mettre en œuvre.
Et ils sont prêts à le faire. C'est ça, on a une très récente étude de l'INSEE là-dessus qui prouvait que ce qui détruit un peu toutes ces idées reçues. C'est exactement le contraire de ce qu'on nous raconte souvent dans certains plateaux télévision, pour ces personnes, qui nous disent que vraiment c'est une horreur, ils sont là pour en profiter, mais pas du tout. Ces gens ne sont pas là pour en profiter, ils sont là pour venir, soit en transit vers un autre pays qui les intéresse plus que le nôtre, soit ils sont là parce qu'ils ont envie de prouver qu'ils sont capables de travailler et qu'ils ont des compétences.
Tout à fait. Je connais bien deux types de publics. Au titre de Réseau Éducation Sans Frontières, on reçoit tous les mercredis après-midi du public, donc des jeunes ou des familles avec enfants. Ces jeunes qu'on reçoit à RESF, c'est souvent des jeunes qui ont parcouru des milliers de kilomètres avant de venir en France,
qui
ne demandent qu'à étudier, à travailler. Et en général, c'est des gens qui sont extrêmement... quand ils sont
motivés, en apprentissage,
par exemple, avec les employeurs... leur demande de rester, leur demande de travailler, et ça se passe très très bien.
Mais c'est souvent le cas, et ils sont motivés, et puis ils ont cette faculté à s'adapter aussi. Faut se mettre dans leur peau un peu quand même. Si vous aviez parcouru, parti d'un pays en guerre, traversé les frontières, les mers parfois, n'est-ce pas, notre chère Méditerranée, et puis vous arrivez là, et vous avez encore cette volonté de vous intégrer, de travailler, de créer des entreprises aussi. Donc en fait, notre pays, la France, en aurait besoin. Et puis, ça réglerait peut-être aussi, en partie, le travail au noir.
Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, on précarise les sans-papiers, les immigrés sans-papiers. Alors qu'en fait, du coup, ils sont bien obligés quand même de subvenir à leurs besoins. Ils n'ont qu'une solution, c'est effectivement des petits boulots, des travails au noir. Alors qu'en fait, si on les régularisait, si on les autorisait à travailler...
Il
paierait
des charges sociales,
des impôts et ainsi de suite. Et donc, du coup, il participerait à la richesse de la nation.
Ouais. Et ben, comme ça, on marche sur la tête toujours. Alors,
J'ai l'exemple, par exemple, aussi de famille. Je suis, par exemple, une famille albanaise qui est en France, qui est à Montpellier depuis 8 ans, 9 ans maintenant, qui est toujours en attente de papier. Alors qu'en fait, ce sont des gens qui sont... prêts à travailler, qui ont des diplômes.
Qui sont diplômés, c'est ça aussi, cette idée reçue comme quoi ce sont des gens qui savent rien faire. Mais pas du tout. Il y en a beaucoup qui, dans leur pays d'origine, avaient des fonctions, même des fois importantes. Un médecin, on peut penser à ça, infirmière, et vous qui êtes dans l'éducation, professeur.
Oui. Et puis aujourd'hui, il n'y a plus aucun étranger qui est bien traité, on va dire. Parce que, effectivement, quel que soit le niveau de scolarité, etc., on accueille aussi mal les uns que les autres.
Ouais, c'est ça. C'est bon, écoutez, on est toujours ébahi ou abasourdi par ce qu'on entend, mais donc il faut se mobiliser. Voilà. Donc on va répéter pour nos auditeurs que le 18 décembre, il va y avoir cette mobilisation avec plein d'associations. C'est pas la peine de les nommer, on les mettra. Et donc à la LDH, vous êtes mobilisés, et vous êtes aussi à Éducation Sans Frontières, c'est ça?
Moi, je suis Réseau Éducation Sans Frontières aussi.
Voilà. Donc très important. Allez-y, montrez que nous, les Montpelliérains, on n'est pas tous frileux et qu'on a aussi envie d'aider ces gens, de leur montrer qu'ils sont les bienvenus.
Tout à fait. Et je voudrais rappeler aussi peut-être le focus qu'on fait sur les questions d'hébergement.
Oui, bien sûr.
Puisque dans le domaine de l'hébergement, il s'est passé un événement il n'y a pas longtemps, là, donc 28 octobre dernier.
Je m'en rappelle.
Le préfet donc, a expulsé d'un squat 30 personnes, dont 15 enfants, qui se sont retrouvés à la rue pendant une semaine. Ils ont dormi sur le parvis de l'hôtel de ville pendant une semaine. Il y a eu une mobilisation citoyenne très forte des associations. Qui fait qu'on a trouvé des solutions. Mmh. Et aujourd'hui, la ville de Montpellier s'est substituée à l'État pour l'hébergement d'urgence, a hébergé de façon transitoire ces personnes. L'ensemble de ces 30 personnes sont aujourd'hui hébergées, alors plus ou moins précairement.
Bah bien sûr, on peut imaginer, mais au moins, il y a eu une réaction.
Il y a une réaction, et la ville de Montpellier va se tourner vers l'État Pour demander des comptes, pour demander une compensation de l'ensemble de cette fonction d'hébergement d'urgence qu'ils ont assuré à la place de l'État.
À la place de l'État. Je me rends compte que depuis quelque temps, je ne sais pas si c'est... L'État se défausse sur les collectivités en disant que ce n'est pas leur rôle, alors que c'est leur rôle.
Tout à fait. Aujourd'hui, le préfet a dit de façon officielle qu'il y a 1500 hébergements d'urgence, places d'hébergement d'urgence manquantes
à Montpellier.
Alors, donc ça veut dire qu'on tolère le fait qu'il y a 1500 personnes qui sont là.
C'est normal. Ben écoutez, merci ouais. beaucoup. Et puis avec la LDH, on continuera nos rendez-vous réguliers pour vous tenir informés de tout ce qui peut se passer. Et il y en a des choses à dire. Hein. Merci en tout cas.
Très bien, merci beaucoup.